Parole rurale, l'émission de reportage à la rencontre des paysans qui nous entourent.
Ou le quotidien en milieu rural raconté par ceux qui le vivent.
Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le premier temps d'échange absolument passionnant entre Christian, paysan, éleveur au Roc sur la commune de Saint-Isère, Élodie, anthropologue, et Rebecca, agronome, toutes deux en service civique à Saint-Isère. Rapport à la terre, aux animaux, rapport interhumain, transmission, échange de savoir, économie, écologie. À la croisée des savoirs de l'expérience, de la terre et des livres, un moment vraiment enrichissant. À déguster avec réflexion et délectation.
Je sais pas, ça nous permet d'avoir vraiment des discussions, et puis c'est pas parce qu'au début on dit qu'on n'est pas d'accord. C'est pas parce qu'on n'est pas d'accord au début qu'après on peut pas discuter et tout. Et vraiment, on a eu. Enfin, après, de manière générale, quand même, les entretiens se passent très bien. J'ai déjà pleuré en entretien.
Là, Élodie, tu ris là en ce moment. Tu peux nous redire en deux mots qui tu es, parce que là, tu nous as fait une petite présentation. Mais pourquoi on est là aujourd'hui là?
Aujourd'hui, on est là parce qu'on rencontre Christian et Pascal autour d'un sujet qu'on a en commun avec Rebecca et moi, qui est le recueil de paroles agricoles, rurales peut-être plus généralement. Mais nous, on est là depuis 2 mois et demi avec Rebecca sur le territoire du Saint-Africain et plus précisément de Saint-Isère, parce qu'on a voulu venir rencontrer des agriculteurs et des agricultrices, parce qu'on s'intéresse toutes les deux à ces questions-là dans le contexte qui est le nôtre en ce moment.
Pourquoi tu t'intéresses et quelle est ta formation et pourquoi tu es du monde rural?
Je suis du monde rural. Ma grand-mère était agricultrice. Elle avait une ferme et puis elle est partie à la retraite et elle a abandonné la ferme et mon père et mon oncle n'ont pas repris parce que c'était un moment où il y avait la crise du lait en bovin et ma grand-mère les a pas du tout poussés à reprendre. Je suis pas directement issue du milieu agricole mais j'ai un peu quand même grandi à la ferme quand j'étais plus petite. Et moi je suis partie faire mes études à Paris, enfin à Bordeaux d'abord puis à Paris et je suis en anthropologie. Donc c'est-à-dire que j'étudie les humains, comment ils fonctionnent entre eux, avec les animaux aussi, avec les plantes, etc. C'est un peu l'humain au sens large. Et je m'intéresse notamment aux questions environnementales. Et donc quand je suis rentrée dans ce master-là à Paris, j'ai voulu m'intéresser plus précisément à l'agriculture parce que je me suis dit que c'était quand même l'alimentation de la base de ces questions-là, des questions écologiques. Et sauf qu'en fait, je sentais un peu une contradiction en fait entre le fait d'être à Paris et d'être partie d'ici, de l'Aveyron, où il y a un passé agricole fort, enfin, et encore un présent agricole fort. Donc j'ai voulu revenir ici pour comprendre ces enjeux-là aujourd'hui de transition agroécologique, comme on peut dire, les gros mots, en tout cas dans les médias ou dans les bouches des politiques, et voir en fait ce que c'est sur le terrain avec des personnes qui sont concernées, des personnes qui travaillent la terre, parce que moi j'y connais rien de la terre, enfin un peu quoi, je sais pas, j'ai barboté dedans quand j'étais petite, mais je sais pas ce que c'est que de semer, d'élever des bêtes, j'y connais pas grand chose. Et donc là, petit à petit, de revenir ici, ça me permet de... j'apprends beaucoup de choses, tant sur les enjeux économique et humain de l'agriculture, mais aussi j'apprends à plus écouter même les oiseaux, comprendre les saisons.
Rebecca, qu'est-ce qui t'amène à accompagner Élodie aujourd'hui à Saint-Isère dans cette dynamique de service civique?
Je ne suis pas du tout issue du milieu agricole. J'ai grandi à Paris et en Alsace, à Mulhouse, donc plutôt des grandes villes. Et j'ai fait mes études à Paris, des études d'ingé agro et puis de la psychologie sociale. J'ai beaucoup aimé, ça m'a ouvert à plein de choses, comprendre les relations de l'humain avec le vivant, etc. Et puis comprendre comment les humains fonctionnent, c'est aussi un peu lié à l'anthropologie. Et j'ai commencé à m'intéresser plus au monde agricole au cours d'un stage, parce que moi, en école d'ingé, je m'étais plutôt spécialisée dans la gestion de l'eau. Donc, service public d'eau potable, d'assainissement, voilà. Et au cours de ce stage, j'ai travaillé avec la chambre d'agriculture du territoire de Belfort. et avec une communauté de communes assez rurale là-bas, et j'avais beaucoup de difficultés à rentrer sur les fermes, à échanger avec des agriculteurs, sans qu'il y ait un gros préjugé de « Ah, mais vous, vous êtes de la ville, vous n'allez pas comprendre », ce qui était un peu vrai, on ne peut pas comprendre en une heure et demie d'entretien. Et puis j'étais effectivement basée à Lyon, donc assez loin d'eux, avec peu d'occasion d'aller là-bas. Et du coup, j'avais vraiment envie de mieux comprendre ce que c'est la vie dans le monde rural et ce que ça peut être d'être un agriculteur ou une agricultrice. J'ai fait quelques jours de woofing dans une ferme une petite ferme d'élevage de porcs et de vaches Angus, mais c'est pas en quelques jours qu'on peut découvrir ce quotidien. Et puis dans la mesure où j'avais envie de travailler plus aux politiques publiques liées à l'eau, à l'environnement en général, pour moi c'était vraiment important d'aller à la base, d'aller sur le terrain pour pas pondre des politiques hors sol qui ont pas de rapport avec la réalité des gens. Et donc c'est pour ça que j'ai cherché un service civique. Et là, il se trouve que je suis tombée sur une offre qui est en fait une expérimentation, parce que c'est la première fois qu'il y a un service civique en lien avec la thématique agricole en France.
Parce qu'elle n'est pas encore considérée comme d'intérêt général.
Voilà.
Jusqu'à maintenant.
Et du coup, ouais, pour moi, c'était important d'avoir l'occasion de rencontrer des agriculteurs et des agricultrices de différents horizons. Donc, toute taille de ferme, des néo-ruraux, des issus du milieu agricole, etc. Et puis de vivre moi-même sur un territoire rural, donc devoir prendre la voiture à chaque fois que j'ai besoin de faire quelque chose, habiter dans un... En l'occurrence, j'habite dans un endroit un peu isolé, dans un hameau. Et donc voilà, je suis super contente de découvrir tout ça et de savoir de quoi je parle, même si j'ai pas travaillé sur une ferme, donc je peux pas éprouver la pénibilité que c'est, par exemple. Mais je pense que à travers toutes nos discussions, on finit quand même par... une vision nuancée de ce que ça peut être de travailler dans une ferme avec différentes visions des choses, différentes approches. Et c'est ce qui m'a amené ici.
Vous nous avez expliqué que vous étiez là dans le cadre d'un service civique qui avait été mis en place par une coopération entre la Fédération départementale de l'Écuma, la commission, le coco, c'est quoi, je ne me souviens plus.
Le
comité de communes, et la commission agricole du comité de communes, et puis la commune de Saint-Isère, cette dernière souhaitant travailler sur l'accueil des nouveaux arrivants et le recueil de la mémoire paysanne. Et vous étiez en train de nous expliquer les trois thématiques sur lesquelles vous axiez votre travail, là. Donc vous êtes depuis 2 mois et demi dessus, il vous reste encore quelques mois. Mm-hmm. Vous pouvez nous rappeler les trois thématiques sur lesquelles vous articulez votre engagement en service civique ?
Oui, sur le volet plus agricole de notre mission, on travaille sur la coopération entre agriculteurs, l'entraide, que ce soit dans un cadre formel, à travers des CUMA, un GAEC ou toute autre organisation collective, comme le dressage de chiens, ou dans un cadre plus informel entre voisins, qui est cette première partie coopération agricole. On travaille aussi sur les transmissions d'exploitation. Pour l'instant, on recueille ce que nous disent les agriculteurs de comment ils sont entrés sur leur exploitation, est-ce qu'ils pensent déjà à la transmission, est-ce qu'ils veulent transmettre à leurs enfants ou ça les dérange pas de transmettre à quelqu'un d'autre, est-ce qu'ils sont ouverts à des changements de système sur leur exploitation au cas où la personne qui veuille reprendre souhaite changer de production, etc. Et puis on travaille sur une dernière thématique qui est la diversification de la production sur le territoire, dans la mesure où il y a des néo-ruraux qui souhaitent s'installer en maraîchage par exemple, donc dans une filière de production qui n'est pas celle qui est actuellement dominante sur le territoire, à savoir l'eau, vin, lait. Et donc ces trois thématiques sont liées parce que pour accueillir ces nouvelles productions ou pour accueillir des personnes qui reprennent une ferme, qu'elles soient issues du monde agricole ou non, eh ben, il faut qu'elles puissent s'insérer dans les réseaux qui existent déjà, bénéficier de cette entraide avec tous les avantages que ça procure, eh ben, déjà un lien
social.
Un lien social, et puis une baisse de charge, des coups de main en cas de coup dur, etc. Enfin, donc en fait, ces trois thématiques sont liées, et c'est autour de ces trois questions-là qu'on échange avec des agriculteurs au cours d'entretiens qui sont censés durer une heure, mais qui, en général,
durent deux à trois heures.
Voilà.
Alors, ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, il y a Christian qui est avec nous, ouais. Puisque donc, il se trouve que là, nous sommes dans l'atelier de Kat et que vous étiez là en formation pour vous-même, et puis que vous nous avez proposé de nous rencontrer avec Christian, avec lequel on anime, avec sa femme Chantal, l'émission Parole Rurale depuis le mois de mai.
Je voulais simplement dire que c'est très dur de pouvoir rentrer dans un cercle du milieu agricole. C'est très fermé et on n'y rentre pas facilement. Comme tout néo, eh bien, il est mal vu, il ne rentre pas facilement. Il faut qu'il fasse ses preuves. Quand il a fait ses preuves, il est accepté, on y ouvre la porte, on est dans un morceau de pain. Mais c'est très difficile au départ. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui arrivent des néos, ils croient tout savoir, tout apprendre à ceux qui sont déjà là depuis 100 ans, et ça passe pas bien.
Quand je t'ai rencontré la première fois avec Chantal, on était dans un film de Depardon, dans votre cuisine, il n'y avait pas beaucoup de mots, et vous disiez, nous, on ne sait rien, on est des cutéreux, on ne nous considère pas, et vous n'êtes pas les seuls ici dans les Amis Paysans qui disent ça. Tu peux dire quelque chose de ça ?
Je dirais tout simplement une chose, quand tu es arrivé ici, on a très bien apprécié que tu fasses le premier pas en tant qu'arrivant à aller voir les gens. Et ça, ça a été apprécié de tout le monde. C'est une chose très importante, hein, d'aller voir les gens et de les considérer, quoi.
Pourquoi ça ? Parce que vous vous sentez pas forcément considéré comme paysan ?
Non, non, non. On n'est pas tellement considéré. Oui, au final, c'est nous les étrangers. On devient des étrangers chez nous. Oui, et aller voir les gens, s'intéresser à eux, c'est le premier pas qu'il faut faire. Et ne pas les prendre de haut. Là, ça passe pas du tout.
Est-ce que, quelque part, le savoir terrien que tu as en tant que paysan, qui a appris ça de ton père, de ton grand-père, de la famille...
De la pratique de tous les jours et du vécu de tous les jours.
Par rapport au savoir qu'on apprend à l'école ou à la ville ?
C'est un tout petit goutte d'eau dans un vase.
Lequel ?
Ce qu'on apprend à l'école, c'est en tenant la charrue qu'on apprend à la manier.
Et donc, on travaille ensemble depuis le mois de mai à rencontrer donc des personnes du monde agricole, quelle que soit leur pratique, en essayant de ne pas recevoir, de rencontrer que des personnes qui font de l'élevage ovin, parce que on se dit que nos auditeurs, au bout de trois émissions, ils vont saturer, vous êtes toujours la même chose. On essaie de diversifier au maximum.
Ils sont tous différents.
On essaie de travailler aussi sur la question de la coopération, parce que c'est aussi une des thématiques de notre émission, de savoir comment les gens s'entraident. Et est-ce qu'on s'entraide aujourd'hui autant qu'avant ? Parce que beaucoup d'anciens nous disent que c'est plus tout à fait le cas et que ça leur manque. Et puis on travaille, parce que moi je suis médecin, et je travaille sur la question de la transmission, parce que parfois je vois aux urgences, où j'interviens en SAMU, pour des situations absolument dramatiques en Aveyron, où la question de la transmission se pose, c'est-à-dire que j'ai des injonctions paradoxales des parents qui me confient la ferme, qui ne sont pas toujours opérationnelles, et ça peut me mettre dans une tension pas possible, parce que la loi du marché, parce que les emprunts, et que c'est très compliqué de gérer ça, et que c'est souvent compliqué d'en parler. Voilà, donc moi, pourquoi j'ai proposé à Francky de reprendre l'émission, c'était pour travailler sur ces trois thématiques que vous analysez, quoi. La question de la diversification avec l'arrivée effectivement de nouvelles pratiques ici avec des personnes qui viennent d'ailleurs, et comment est-ce que ça se rencontre ou pas. Donc c'est vrai que pouvoir échanger avec Christian et voir rencontrer plein de nouvelles pratiques et de nouveaux ruraux qui s'installent, c'est très intéressant. Christian, tu pourras peut-être nous parler de comment ça se passe aussi dans la situation Canac Solidarité, et justement le lien avec cette famille qui s'installe avec un projet de ferme pédagogique, et comment le bon sens terrien de Christian vient rencontrer aussi des dynamiques qui sont différentes. Donc ça, c'est très chouette. Et puis sur la question donc de la transmission, donc c'est vraiment important, cette question de comment ça se passe entre ce que Christian vient de dire, les personnes qui ne sont pas d'ici, les étrangers, quand on n'a pas des os au cimetière. C'est-à-dire qu'on est nombreux quand même, hein. à pas avoir des œufs au cimetière, ou encore pas encore. Et puis ceux qui les ont.
Et voici les squelettes.
Nous avalons les squelettes.
Les jeunes aujourd'hui ne sont pas renfermés comme on l'a eu été nous. Ils sont davantage ouverts à tout niveau.
Un des enjeux pour moi dans l'émission était de permettre à des personnes issues du monde rural ou des travailleurs de la terre ou de l'élevage de pouvoir rencontrer aussi un peu les néo-ruraux en écoutant une radio qui s'appelle Radio Saint-Taf, que la plupart d'entre eux n'écoutent pas parce que souvent dans les tracteurs ils écoutent Totem ou autre chose. Donc on ne sait pas avec Christian si cet objectif est atteint parce que la plupart des personnes qu'on a interviewées n'ont pas forcément écouté leur émission et on n'a pas l'impression...
Radio Saint-Afrique n'est pas tellement écoutée. Sur le tracteur, ils écoutent Fun Radio.
Mais moi, j'arrive pas à le trouver, Radio Saint-Afrique, sur mon poste.
Ah, c'est
mais oui, j'arrive pas. Et en plus, on peut que l'écouter à Saint-Afrique. Dès que je pars à Rodez, du coup, ça me dérègle tout.
Podcast,
je vais l'écouter sur Internet.
Podcast hebdomadaire où vous avez donc 100 émissions d'une demi-heure qui sont disponibles. Donc enregistrées 80 d'entre elles par Francky et puis avec Christian et Chantal. On en a fait une vingtaine. Donc on essaie de diversifier au maximum en posant aussi une question dont on n'a pas parlé. Là, vous êtes deux femmes autour de la table, trois avec quatre qui sont en train de sculpter. La question de la femme en monde paysan. Parce que c'est ressorti dans quelques émissions, mais en particulier si vous écoutez l'émission donc, avec Patrick et ses parents là, sur Saint-Isère, vous entendrez sa mère, Lucette, qui nous dit de manière très, très vive... cette absence de reconnaissance de la femme dans le milieu rural, alors qu'elle a géré pendant des années à soutenir la famille, les parents, les enfants, la compta, la nourriture, la maison, travailler aussi parfois dans les champs, et en disant « mais je n'ai même pas droit à une retraite, c'est quoi ça ?» Je pense que c'est une question extrêmement importante, parce que je pense que c'est souvent grâce aux femmes que ça peut bouger. C'est vous qui transmettez la vie, mais c'est vous aussi qui pouvez faire bouger aussi beaucoup de choses. Moi, je le vois aussi à travers la violence faite aux femmes, pas forcément dans le milieu rural, je ne m'en rends pas trop compte, mais quand même qui existe aussi en terre d'Aveyron.
Nous, c'est clairement quelque chose qui ressort avec les femmes qu'on rencontre en entretien. D'ailleurs, quand on a une question un peu large qu'on aime bien, qui est... qu'est-ce que c'est pour vous le métier d'agriculteur ? Et quand on est face à une femme, on demande « et d'agricultrice ?» Et qu'est-ce que ça fait en particulier d'être une femme
Oh, playfully watching me.
c'est souvent des réponses intéressantes. Il faut faire encore plus ses preuves, notamment si on veut être jugé crédible, si on veut pouvoir conduire des machines, si on veut pouvoir être écouté des techniciens, écouté des commerciaux, et pas qu'on nous demande il est où le patron de la ferme. quand on est soi-même chef d'exploitation,
c'est très dur pour une femme néo, moins pour une femme de...
Je pense que c'est ça, les femmes néo, elles ont plus tendance à l'affirmer parce que peut-être elles ont vécu dans un autre monde où c'était moins difficile de s'affirmer comme femme,
ou différent.
Mais je pense que c'est aussi une problématique qui se pose pour les femmes issues du milieu agricole, dans le sens où la répartition des tâches, elle est vraiment quasiment toujours la même.
Mais après, il y a beaucoup de femmes que ça dérange pas, parce qu'en fait,
y a toute cette question.
Il y a une complémentarité aussi entre quand c'est un travail de couple notamment, où il y a un homme et une femme, il peut y avoir une complémentarité entre les deux, mais ce qu'on remarque quand même, c'est que c'est plutôt souvent, donc quand ils sont deux, l'homme qui s'occupe des champs, quand c'est une ferme en bovin lait par exemple, l'homme qui s'occupe des champs et des cultures et donc qui va monter sur le tracteur, et les femmes du coup plutôt dans le soin des brebis, l'homme va venir aider au moment, enfin quand il n'y a pas le travail des champs, quand c'est pas l'été par exemple, ou sur les annulages notamment, et après la compta c'est souvent les femmes qui la font, tout le travail administratif,
les hommes détestent ça. Je voulais en revenir à mon travail de la maison, du temps de mes parents, voire de mes grands par an. Si une femme n'avait pas fait le travail correctement à la maison, que ça soit fait par un homme, la femme était très mal vue. Donc c'était à elle à le faire. Si un homme allait faire la cuisine, sa femme se faisait passer pour moins que rien.
Tant qu'on puisse vraiment le vérifier, c'est des schémas qu'on retrouve encore aujourd'hui. On a parlé à plusieurs jeunes agriculteurs, par exemple, qui nous disent « Oh, mais moi, je sais pas cuisiner ». Et en fait, on suppose que...
Ils ont pas de compagne. Mais du coup, il y en a qui mangent... de la merde, du coup, genre, ils vont manger des boîtes.
Alors qu'eux, ils produisent des aliments de bonne qualité, mais c'est comme c'était leur mère qui cuisinait, je suppose, elle leur a pas forcément transmis ce savoir, puisque c'est plutôt quelque chose qui se transmet aux filles. Et du coup, je pense que c'est des schémas qui se répètent à cause de ces questions de transmission.
Il faut reconnaître que c'est ingrat de faire la cuisine. On passe 2 heures pour faire la cuisine, on paye un quart d'heure pour la manger.
Christian est très bien placé, il est excellent cuisinier. Alors lui, il produit, il fait tout, et en même temps, il vous fait des repas extraordinaires.
Mais vous prenez pas du plaisir à cuisiner ?
Si, pour les autres, on prend du plaisir, mais quand on est seul.
Ah
c'est
oui,
pour ça que j'ai envie de dire ça. Celui qui se trouve tout seul, passer 2 heures au lieu d'aller travailler, faire la cuisine pendant 2 heures, manger ce que tu as fait à un quart d'heure, c'est pas...
Oui.
Mais quand on l'a fait pour les autres, c'est sûr que c'est très intéressant.
Ça rejoint une autre problématique qui est celle de l'isolement de certains agriculteurs.
C'est une question importante parce que moi je travaille dans un milieu où généralement il y a 3 femmes pour un homme à l'hôpital de Rodez, j'ai découvert ça la fois dernière. Il y a beaucoup de femmes qui sont seules et c'est vrai qu'en milieu rural, on rencontre quelques agriculteurs, hommes ou femmes, qui sont seules. Il faudra peut-être monter une agence dans le cadre de vos projets.
Sachez monsieur, je suis au désespoir. C'est dans cette année que j'atteins la trentaine et je n'ai plus trouvé
femme qui comme adore, c'est ma femme qui l'est fait. Heureusement qu'elle est là. Ça, on a eu ça.
En fait,
le sang des gloires, c'est moi qui
l'ai fait. Elle était là, sa femme, ils ont rigolé tous les deux.
Tout ce qui est dur, c'est le mari qui le fait.
Bah oui.
Voilà.
Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'il n'y a pas forcément de problème à ce que la répartition, elle soit comme ça. C'est pas moins bien de faire le travail des champs ou moins bien de faire la compta. C'est juste deux métiers différents. Mais je pense que ce qui serait important, c'est qu'il y ait vraiment le choix et que ce soit pas quelque chose... Qui se fait comme ça parce que ça s'est toujours fait comme ça, ou parce qu'en fait on n'a pas pu hériter de ces savoirs. Je vais pas conduire le tracteur parce que moi, mon père, il m'a pas appris parce que j'étais une fille et j'étais pas un garçon. où je vais pas aller aux réunions de Kuma parce que dès que j'ouvre la bouche, j'ai pas l'impression d'être prise au sérieux. Bon, c'est pas quelque chose qu'on a entendu forcément, mais en fait, la répartition des tâches telle qu'elle existe aujourd'hui, elle est pas problématique, mais il y a pas un boulot qui vaut mieux que l'autre, et justement, c'est ça qu'il faut accepter, c'est que faire la compta, c'est un boulot en soi et c'est quelque chose qui doit être valorisé aussi au même titre que faire le travail des champs, et ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, on nous dit, par exemple, quand on demande comment vous vous répartissez les tâches dans le GAEC, parfois on nous dit pas qui fait la compta, alors que c'est une part hyper importante. Et
surtout
que
tout le monde s'en plaint.
Donc... voilà, et que et c'est... Oui, il faut reconnaître que c'est un travail à part entière, quoi.
Comment ça se rencontre, le savoir de l'expérience et le savoir théorique universitaire ?
Bah moi, je dirais que c'est difficile, parce que par exemple, là, si on est... là, on est sur un format qui est un format audio, et donc forcément, en fait, ce qu'on va percevoir, ça va être la parole et ce qu'on est en train de dire. Et les gestes, bah, on peut les entendre, mais on les entend pas beaucoup. C'est surtout les gestes, on peut les voir si on fait un film, par exemple. Mais tant qu'on les vit pas, tant qu'on les fait pas soi-même, je pense qu'on peut pas percevoir tout ce qu'il y a derrière. Et par exemple, je pense à la faux. Bon, maintenant, plus grand monde utilise la faux. Mais... oui. mais en fait, quand on voit l'outil, on se dit que ça a l'air facile d'utiliser et tout ça. Eh ben, une fois, j'ai voulu utiliser la faux. Ah bah, c'était horrible. Et vraiment, en fait, il a fallu qu'on me montre plusieurs fois. Et même, en fait, quand je voyais la personne faire, je me disais, mais c'est super simple. Et puis, je la prenais. Ah bah, j'arrivais toujours pas. Et du coup, en fait, là, je me dis, ah oui, non, ok, en fait, t'es broussailleuse. Mais.
Je veux pas te dévaloriser, mais je pense qu'il te faut quelques mois, quelques années.
Oui, voilà. Mais du coup, en fait, c'est que aussi, c'est deux types de savoirs complètement différents. Ceux qu'on va pouvoir verbaliser. Et écrire aussi, en fait. Et puis, ces savoirs-là, en fait, qui sont un peu... Enfin, il y a un mot qui est utilisé... Enfin, moi, j'adore ce mot, c'est le mot ineffable. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas être mis en mots. Que ça peut être des émotions, en fait, qui peuvent pas être mises en mots, mais ça peut aussi être des savoirs de ce type-là, des savoirs manuels, notamment. Et en fait, enfin, je pense que c'est pas la seule raison qui fait que c'est difficile de communiquer entre ces deux mondes, le monde universitaire et le monde terrien, comme tu dis, ça me fait rire. Parce que de plus en plus de gens à la fac qui veulent se dire terrestres, et ça part d'une bonne intention, mais c'est difficile à réaliser.
C'est un peu lunaire.
Mais après, on a aussi besoin de la lune. Moi, ma grand-mère, elle était agricultrice et elle faisait très attention aux astres et elle voyait leur impact sur les comportements des animaux et tout ça.
Je te rejoins quand tu dis ça, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on travaille, je dirais pas n'importe comment, mais on ne regarde plus la lune, on ne regarde plus le temps qu'il fait, on ne regarde plus rien. Il arrive le mois de septembre, on croit avoir des montagnes en feu tellement qu'il y a de la fumée émise par la terre, parce qu'on a des outils qui font qu'on peut aller travailler en toute saison, et on va travailler la terre n'importe comment. Avant, la terre, il fallait défaire tout doucement les grains. Maintenant, non, on y va avec des grosses machines qui fassent sec, mouillé ou n'importe quoi, on y arrive, on le fait. Et c'est fait en de tas de mouvements, terminé. Après, on s'étonne qu'il pousse de l'herbe, mais on s'en fout, on désherbe. On s'étonne que ça vienne pas assez long, on s'en fout, on met de l'engrais. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas où.
Merci pour ce temps de réflexion, d'échange, qui va durer encore 15 jours, chers amis auditeurs, en espérant que vous y avez pris du plaisir. Merci Kat de nous avoir reçus dans ton atelier à Saint-Isère, où tu transmets ta passion pour la Terre. Si cette émission vous a plu, déplu, vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à nous écrire sur paroleruralau@gmail.com. Nous aurons la joie la semaine prochaine d'accueillir dans l'équipe d'animation de Parole Rurale Élodie, avec qui nous avons passé du temps aujourd'hui, qui va nous rejoindre auprès de Chantal, de Christian et de moi-même, Pascal. Au plaisir de vous retrouver.